Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Myriam Lemaire.
Madame, Monsieur, bonjour. Comme nous vous l'avions annoncé dans notre émission du 6 juillet 2008 avec Monsieur Philippe Cérez, directeur de la communication du Sénat, Canal Académie vous propose une série d'émissions consacrées au Sénat pour vous faire mieux connaître le rôle et les travaux de la Haute Assemblée. Dans ce cadre, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Jacques Legendre, sénateur du Nord, président de la communauté d'agglomération de Cambrai, qui est aussi, depuis le 8 octobre, président de la commission des affaires culturelles du Sénat, dont il était auparavant vice-président. Je rappelle aussi qu'il est enseignant, professeur agrégé d'histoire et qu'il a été de 1977 à 1981 secrétaire d'État à la formation professionnelle. Monsieur le sénateur, bonjour. Monsieur
bonjour,
le président,
madame.
Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Je suis heureuse de vous présenter au nom de notre radio et de son président, Monsieur Jean Cluzel. Mes très vives félicitations pour votre élection à la présidence de cette commission dont nous suivons ici les travaux avec un intérêt tout particulier, vous l'imaginez, étant à l'Institut de France. Monsieur le sénateur, nous avons prévu de consacrer cette émission au rapport du groupe de travail sur le baccalauréat, groupe de travail que vous avez présidé, dont vous avez été le rapporteur. Ce rapport intitulé « À quoi sert le baccalauréat ?» a été présenté le 3 juin 2008. Il dresse un état des lieux très complet du fonctionnement actuel du baccalauréat, en rappelle son histoire et il analyse aussi la place exceptionnelle qu'occupe le baccalauréat dans la société française. Ce rapport nous invite à une véritable plongée au cœur d'une institution sociale et scolaire à nul autre pareille. C'est un rapport de 200 pages, extrêmement documenté et qui remet en cause un certain nombre d'idées reçues. Il se situe à contre-courant de quelques ouvrages récents qui remettent en cause le baccalauréat, comme « Stop à l'arnaque du bac » de M. Jean-Robert Pitt, ancien président de la Sorbonne, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui s'est exprimé sur Canal Académie en mars 2008. Votre rapport propose au contraire de renforcer le baccalauréat et présente 18 propositions et 4 axes d'action principaux. Monsieur le sénateur, avant d'évoquer votre rapport, je vous propose d'éclairer nos auditeurs sur le rôle et les compétences de la commission des affaires culturelles, dont vous êtes désormais le président et qui est l'une des commissions permanentes du Sénat. Je voulais vous demander notamment, pouvez-vous nous dire à quoi sert la commission des affaires culturelles du Sénat et quels sont ses champs de compétences ?
Je n'oserais pas dire que vous me posez là une bonne question. Vous savez, le Sénat, comme toute assemblée parlementaire, est structuré en commissions permanentes. Il y a 6 commissions permanentes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Une de ces commissions est la commission dite des affaires culturelles, qui ne se limite pas à traiter des questions de la culture au sens le plus étroit, mais qui a à connaître de tout ce qui a trait à l'éducation, enseignement primaire, secondaire, supérieur, qui connaît bien sûr des problèmes de science, la science. Nous nous intéressons évidemment aux problèmes de communication et de médias et aux problèmes de la jeunesse, des sports, du patrimoine, de la francophonie. Bref, vous le voyez, nous avons un champ de compétences large.
Extrêmement riche, tout à fait. Comment cette commission organise-t-elle ses travaux? Comment choisit-elle ses thèmes prioritaires? Et quels sont pour cette commission les sujets d'actualité dans l'année qui vient?
Chaque sénateur est membre obligatoirement d'une commission permanente et d'une seule. Donc nous avons des commissaires, à la proportionnelle des groupes politiques qui ont choisi d'être membres de cette commission. Et nous tenons des réunions régulières pour examiner les rapports qui sont établis par les sénateurs, soit sur leurs propositions, soit parce qu'ils sont rapporteurs budgétaires. Nous avons une quinzaine de rapports budgétaires pour avis où nous allons donner notre opinion sur le fond de la politique qui est menée et sur les crédits qui lui sont consacrés. Et puis, évidemment, nous avons à donner le sentiment de la Commission sur tous les textes de loi qui viennent au Sénat, projets de loi ou propositions de loi, et pour lesquels nous désignons des rapporteurs quand ils sont dans le champ de compétences de la Commission. J'ajouterai que la récente réforme de la Constitution a renforcé considérablement le rôle des commissions, puisque désormais, quand un texte viendra en séance plénière, il sera examiné non pas dans sa rédaction initiale, mais dans la rédaction qui ressortira des travaux de la commission.
Pouvez-vous nous dire ce que vous envisagez de traiter dans l'année qui vient? Quels sont les grands sujets d'actualité?
Nous avons dans les semaines qui viennent à nous pencher sur des textes d'origine gouvernementale qui portent sur les incidences des nouvelles technologies dans les médias, sur des problèmes également de presse. Il y a actuellement des états généraux de la presse. Et puis, évidemment, aussitôt après, nous allons aborder la période des débats budgétaires.
Je vous remercie. Je vous propose de marquer une courte pause et de vous retrouver dans un instant sur Canal Académie.
Quel est l'état de l'illettrisme en France? Ce problème encore trop méconnu touche près de 3 millions de personnes. Écoutez sans plus tarder les propos de Eunice Mangado-Luneta et téléchargez cette émission sur canalacademie.com.
Madame, Monsieur, bonjour. Nous nous retrouvons en compagnie du sénateur Jacques Legendre, président de la Commission des affaires culturelles du Sénat et auteur d'un rapport « À quoi sert le baccalauréat ?» Monsieur le sénateur, pourquoi la Commission des affaires culturelles a-t-elle souhaité mener cette étude sur le baccalauréat cette année?
Écoutez, j'ai fait à la Commission la proposition de lancer une étude sur le baccalauréat, sa place dans la société française du début du XXIe siècle, parce que le baccalauréat est régulièrement mis en cause, régulièrement critiqué. C'est donc un sujet d'actualité. Et en même temps, nous nous rendons compte qu'il joue encore un rôle essentiel, puisqu'entre ceux qui ont le baccalauréat et ceux qui ne l'ont pas, il y a une différence de statut, de situation. Et je crois que les jeunes Français attachent encore de l'importance à réussir l'examen du baccalauréat. Alors, il m'a paru souhaitable de regarder. J'ajouterais que je venais de faire un autre rapport sur les classes préparatoires aux grandes écoles et sans doute leur nécessaire diversification sociale, et qu'on voyait bien à cette occasion le rôle également joué par le bac, ou du moins par le bac S. Et donc, j'ai voulu compléter en proposant à la commission, qu'il a accepté, et à son président Jacques Vallat, de me pencher sur le baccalauréat.
Et cette année marquait aussi les 200 ans de ce baccalauréat.
C'était son anniversaire. Alors, il fallait voir si ce jeune vieillard de 200 ans était encore valide.
Comment se sont organisés les travaux du groupe de travail que vous avez présidé? Quelles sont les personnalités que vous avez auditionnées? Avez-vous examiné des exemples à l'étranger?
Comme toujours, nous avons constitué un groupe de travail avec des sénateurs de la majorité et de l'opposition, hein, représentatif donc de toutes les sensibilités de notre commission. Et puis nous avons dressé une liste de personnes à auditionner, des historiens de l'éducation, pour savoir d'où vient le baccalauréat, comment il a évolué. Et ça, je crois que ce n'est pas sans importance pour comprendre le point où nous sommes arrivés maintenant. Des responsables du ministère de l'Éducation pour connaître la réflexion gouvernementale, ministérielle sur ce point. Des inspecteurs généraux de l'éducation, des chefs d'établissement, bien évidemment des responsables d'associations de parents d'élèves, d'organisations lycéennes, d'organisations étudiantes, de la conférence des présidents d'université, de manière à avoir un avis aussi, aussi large que possible. Nous sommes rendus également dans un certain nombre d'endroits. Par exemple, nous avons visité la maison des examens en région parisienne, là où sont organisées les épreuves du baccalauréat pour l'Île-de-France.
Avez-vous eu des informations sur des pays étrangers, notamment européens ?
Oui, nous avons évidemment demandé à nos postes diplomatiques un certain nombre de renseignements pour savoir comment en Italie, en Allemagne, dans les pays, dans d'autres pays assez proches du nôtre, s'organisait cette vérification des connaissances acquises. On se rend compte que le modèle français est assez spécifique, assez original, même si peut-être en Italie, par exemple, l'examen de maturité a quelques points communs avec notre baccalauréat.
Vous avez évoqué les historiens. Quelles leçons tirez-vous de 200 ans d'histoire du baccalauréat ?
La première remarque à faire, et ça explique peut-être les incompréhensions actuelles, c'est que le baccalauréat a longtemps été un examen passé par une toute petite minorité de jeunes Français. Jusque dans les années 1930, le baccalauréat est passé par 15 000 jeunes à peu près par an, c'est tout. Si je me reporte à ma propre expérience, je pense que l'année où j'ai passé le bac, nous étions environ 50 000 jeunes Français à l'obtenir. Cette année, il y a eu 550 000 reçus au baccalauréat et sur environ 650 000 candidats. Ce qui veut dire, malgré une idée que l'on se fait qu'il y a encore des gens qui échouent au baccalauréat, et un nombre non négligeable, mais il est évident qu'un examen qui est passé par 500 ou 600 000 personnes n'a pas du tout la nature de ce qu'était l'examen quand il était passé par une minorité. Le baccalauréat est devenu un problème et un objectif pour une grande majorité des générations actuelles de jeunes Français. Ça change tout.
Vous expliquez dans votre rapport que la démocratisation du baccalauréat est loin d'être achevée en dépit de l'augmentation des effectifs et que son unicité n'est qu'apparente, puisqu'il n'y a pas un bac, mais des bacs.
Tout à fait, je crois qu'on appelle baccalauréat un certain nombre de bacs de nature très différente. Quand on parle du bac dans ce pays, on pense aux bacs généraux. Et quand on regarde les bacs généraux, ils sont articulés sur trois bacs, le bac S, le bac dit scientifique, le bac littéraire, et un bac qui se veut plus équilibré, bac ES, et on se rend compte qu'un de ces bacs, le bac littéraire, est actuellement en crise, et que beaucoup de jeunes passent le baccalauréat S, non pas parce qu'ils sont scientifiques, mais parce qu'il a la réputation d'être le bac d'excellence, celui qui vous permettra de faire de fortes études. Donc ça pose déjà sur ce point un problème. Puis à côté, vous avez les bacs technologiques, qui avaient été mis en place au cours de la Ve République, pour faire face à une demande spécifique et pour une poursuite d'études, ensuite dans des séries technologiques. Et on se rend compte maintenant que ces séries sont souvent envahies par des jeunes titulaires du bac général, ce qui pose pour les titulaires du bac techno un certain nombre de problèmes. Et puis enfin, il y a la création la plus récente, les bacs professionnels, qui n'ont pas pour vocation de vous préparer à aller dans l'enseignement supérieur, mais vous permettent d'entrer dans la vie professionnelle avec une formation générale d'un niveau important, et aussi une qualification professionnelle assez pointue, puisqu'il y a, c'est quand même assez étonnant, 72 bacs professionnels différents, donc très, très affinés, si vous voulez, quant au niveau des connaissances professionnelles. Mais néanmoins, certains de ces titulaires de bacs professionnels tentent leur chance dans l'enseignement supérieur, ils n'ont pas été préparés à cela, et ils constituent malheureusement souvent une bonne partie de ceux qui vont échouer dans l'enseignement supérieur.
Ce monument national qu'est le baccalauréat n'est-il pas en péril compte tenu de ces dysfonctionnements que vous avez pointés dans votre rapport ?
La meilleure défense du baccalauréat, c'est le fait que les Français n'ont pas envie de le voir disparaître. C'est un monument national, puisqu'il existe depuis 200 ans, c'est surtout un repère pour une génération. C'est un petit peu aussi un rite de passage. Être bachelier, ça veut dire être au-delà d'une certaine époque. Avant, on prépare le bac, on est un lycéen et on n'est pas majeur, si on peut dire. Donc, c'est un moment important. Est-ce qu'il faut faire perdre aux jeunes un des derniers repères qui leur reste? Moi, je pose la question. Et je crois qu'avant de dire qu'il faut le supprimer, il faut être extrêmement prudent. C'est un des repères dans la vie d'un jeune. Et maintenant, ce n'est pas une minorité de jeunes qui est concerné par le bac, j'insiste là-dessus, c'est la majorité, la grande majorité d'une génération qui est confrontée à l'épreuve du baccalauréat.
Au-delà de son rôle symbolique et rituel que vous soulignez, quelles sont aujourd'hui les grandes fonctions du baccalauréat, les deux grandes fonctions du baccalauréat ?
Il est à la fois, et c'est peut-être l'ambiguïté, et depuis le départ, le diplôme qui atteste de la formation secondaire qui a été reçue et qui est supposée assimilée, maîtrisée. Donc vous avez des connaissances, vous avez maîtrisé ce que l'on apprend dans l'enseignement secondaire. Et il est aussi le premier grade de l'enseignement supérieur. Il vous donne le droit, sans discussion, d'entrer dans l'enseignement supérieur. Mais ce qui m'a frappé, ce qui nous a beaucoup frappé dans la commission, c'est que si on rappelle en permanence qu'il est le premier grade de l'enseignement supérieur, dans la pratique, l'enseignement supérieur ne se préoccupe guère de ce baccalauréat qui est totalement dans la main de l'enseignement secondaire. Moi, je trouve que l'université, qui se plaint parfois de recevoir des bacheliers insuffisamment formés, etc., devrait être plus attentive à ce baccalauréat, aux conditions dans lesquelles on le passe, à ses contenus. J'avais d'ailleurs, lors de la discussion de la loi Fillon, la loi sur l'enseignement secondaire, fait adopter un amendement qui disait que les universités devaient faire connaître les prérequis, les connaissances qui seront nécessaires pour que l'élève qui va, l'étudiant qui va entrer en supérieur puisse avoir des chances d'y réussir. Bon, pour différentes raisons. Peut-être d'ailleurs pour partie parce qu'ils ne sont pas ou peu rémunérés pour jouer un rôle dans les jurys de baccalauréat. L'enseignement supérieur jusqu'ici s'est tenu à l'écart du baccalauréat. Je crois qu'il faut absolument en sortir. Il y a une majorité de jeunes qui vont dans le lycée. Et il y a une majorité de jeunes qui vont également dans les deux ou trois premières années de l'enseignement supérieur. Donc enseignement secondaire et enseignement supérieur, si je puis dire, même combat.
Vous combattez aussi une idée fausse, mais je crois assez répandue, qui est que le baccalauréat serait bradé et que la notation du bac serait trop laxiste. Qu'en pensez-vous ?
Je crois que nous avons tout intérêt à garder un diplôme national et être très clair quant à la façon dont la notation est organisée. Il n'est pas illégitime que l'on fasse une certaine homogénéisation entre le travail de différents correcteurs. Chacun sait d'expérience qu'il y a des correcteurs qui notent plus sèchement, plus durement que d'autres, et que donc une harmonisation, ça n'est pas anormal. Encore faut-il que les critères d'homogénéisation soient connus et rendus publics. Je recommande dans le rapport que chaque jury de baccalauréat soit tenu de faire un compte-rendu, d'indiquer quelles étaient les dispositions qu'il a prises pour justifier les notes qui ont été attribuées, de manière à ce que tout ceci soit rendu public, et que l'on puisse comparer également le pourcentage de reçus dans un jury de baccalauréat et dans un autre jury de baccalauréat. Je crois qu'il y a là à en tirer des leçons. Je pense qu'il est normal aussi que les enseignants d'un élève qui passe le bac soient informés après l'examen des résultats obtenus par leur élève lors de cet examen, puisque ce ne sont pas les enseignants de l'élève qui vont lui faire passer le baccalauréat, et ça c'est important. Je crois que ça peut être utile pour les professeurs, pour l'adaptation même de leur enseignement. Il faut jouer la transparence et la clarté.
Vous évoquez aussi dans votre rapport le coût et la complexité de l'organisation du baccalauréat, qui est une grande machine compliquée. Est-ce que cela ne conduirait pas à privilégier le contrôle continu? Mais votre rapport écarte cette idée.
Je sais que certains lycéens s'inquiètent de la notion de contrôle continu. D'autres, et des chefs d'établissement ou des enseignants, disent au contraire que ça leur simplifierait la vie. Je crois que la vérité doit être un petit peu dans un recours à ces deux méthodes, mais à condition qu'il y ait une part importante quand même de jugement sur l'élève porté par un professeur qui n'est pas professeur de l'établissement et qui n'est pas le professeur de l'élève. Parce que sinon, les relations humaines jouent. Il peut très bien y avoir un professeur qui n'aime pas un élève et qui va ainsi, presque sans s'en rendre compte, lui porter tort. Et il est très important que l'on évite de dire qu'il y a le baccalauréat d'Henri IV et puis le baccalauréat de tel ou tel lycée de banlieue, si vous voulez.
Pas de baccalauréat à deux vitesses, non.
Voilà, non, un baccalauréat examen national et qui doit le rester, même si c'est assez lourd, avec un autre problème aussi. La grande misère de notre enseignement, je crois, c'est quand même la faiblesse de son système d'orientation et d'information. Or, pour choisir les études qu'on va faire dans l'enseignement supérieur, les résultats obtenus dans le secondaire, évidemment, sont très importants. Alors maintenant, dans le supérieur, Madame Pécresse, et c'est un progrès, a mis en place un système d'accompagnement des étudiants en licence, et les universités vont devoir donner leur avis sur les chances qu'a l'élève, le lycéen, de réussir dans le supérieur en fonction de ce qu'il demande, et elles vont devoir porter leur jugement en fonction des notes évidemment communiquées par les enseignants de l'élève. Je crois qu'il est bon, par exemple, en reportant une partie des épreuves dès la classe de première, de faire en sorte que les universités puissent porter leur jugement sur l'élève, pas seulement en fonction des appréciations de ses enseignants dans son lycée, mais en fonction aussi des résultats obtenus lors d'un diplôme, d'un concours national.
Vous proposez, je crois, d'organiser donc le baccalauréat sur deux années.
Oui, oui. C'est pas la révolution, hein, ça. Déjà
nous l'avons connu. J'ai moi-même passé un baccalauréat en deux parties.
Alors, je ne le fais pas en disant ça. On m'a dit, oui, c'est le bac de grand-papa qui réapparaît. C'est pas une question de bac de grand-papa. Vous avez souvent une dizaine d'épreuves actuellement au baccalauréat, ce qui est énorme. Les spécialistes vous diront que 4 ou 5 épreuves permettent déjà de tester le réel niveau d'un élève. Donc on peut s'interroger sur le nombre des épreuves que l'on va faire passer à l'élève et les répartir sur la première et la terminale, ça permettrait peut-être d'éviter justement d'être devant cette alternative, je lui donne le bac et donc il ne redouble pas, ou bien je le contrains à un redoublement. Si on vérifie votre niveau atteint dans une langue étrangère, par exemple en anglais en première, et que votre niveau n'est pas suffisant, eh bien tant pis pour vous, vous devrez refaire de l'anglais en terminale et vous devrez rattraper pour arriver cette fois-ci au bon niveau. Et vous aurez donc deux possibilités de le faire. Tandis qu'actuellement, vous passez votre épreuve, vous n'êtes pas bon, on vous dit vous allez repasser 8 jours plus tard une épreuve de rattrapage. Et là, le professeur n'a comme possibilité que de vous recevoir ou au contraire de vous contraindre au redoublement. Alors souvent, comme il n'est pas méchant, il va vous permettre de passer. On ne me fera pas croire qu'en 8 jours ou 10 jours, on a substantiellement amélioré son niveau. Voilà, si vous voulez, quelques souplesses qui me paraîtraient permettre tout simplement, sans multiplier les redoublements, de s'assurer de la véritable capacité de l'élève.
Parmi vos propositions, vous insistez beaucoup donc, sur la nécessité et sur l'urgence de faire de l'orientation une grande cause nationale.
Oui. Oui.
C'est un point, je crois, très fort et capital dans votre rapport.
Tout le monde nous a dit que l'orientation en France ne marche pas bien. Bon, alors il faut s'interroger sur la façon dont les orienteurs sont formés, sont informés, sur la façon dont l'orientation est organisée, parce que si l'orientation comme service public marche mal, ce sont les relations des familles qui vont faire la différence. Dans le cas des classes préparatoires aux grandes écoles, nous avons dénoncé un certain délit d'initié. Il y a ceux qui savent quelles sont les bonnes classes prépa et ce que c'est que les classes prépa et ceux qui ne savent pas, par exemple. C'est un problème d'information et d'orientation. Il y en a d'autres et on le retrouve au niveau du baccalauréat. Donc nous souhaitons une profonde réforme du système de l'orientation. non pas pour la faire disparaître, mais qu'au contraire, elle joue pleinement son rôle au service de tous.
Monsieur le sénateur, je vous propose de marquer une courte pause et de reprendre dans un instant notre émission.
Je vous en prie.
Canal Academy vous propose de retracer les migrations des hommes préhistoriques. Comment et pourquoi les hommes fossiles sont-ils passés d'un continent à un autre ? À partir de quand parle-t-on d'hominidés et non plus de primates ? Réponse en compagnie d'Henri de Lumley, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et de l'Académie des sciences. Ce préhistorien mondialement connu nous livre un exposé passionnant dans notre émission Éclairage, émission en libre téléchargement sur Canal Academy.
Madame, Monsieur, nous sommes sur l'antenne de Canal Academy en compagnie de Monsieur Jacques Legendre, sénateur, président de la Commission des affaires culturelles du Sénat, auteur d'un rapport très important et très remarqué, « À quoi sert le baccalauréat ?» Monsieur le sénateur, vous nous avez donné votre point de vue sur cet état des lieux, sur l'histoire du baccalauréat, énoncer quelques-unes des recommandations de votre rapport. Parmi ces recommandations, vous préconisez la suppression, je crois, des filières et l'institution d'un tronc commun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que serait ce tronc commun et quelles seraient les disciplines qui y seraient enseignées ? Vous prévoyez aussi d'ajouter à ce tronc commun quelques options, je crois.
Vous avez parlé des historiens de l'éducation que j'ai consultés en faisant ce rapport. Ce qui nous a frappé, c'est de voir qu'au fil des deux siècles d'existence du baccalauréat, se sont ajoutés un certain nombre de matières et que maintenant on peut considérer qu'il y a en gros 5 matières que l'on retrouve presque obligatoirement dans cet examen. Vous avez la philosophie, bien sûr, vous avez le français, au moins une langue étrangère, l'histoire-géographie et les mathématiques qui constituent un noyau que l'on retrouve pratiquement dans tous les baccalauréats. Et puis, en fonction des spécialités, apparaissent d'autres matières qui sont pas obligatoires pour tous, mais qui, pour certaines branches, sont absolument nécessaires. Alors, je crois qu'il faut en tenir compte et avoir l'existence de ce noyau à l'esprit quand on parle du bac. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec une situation où un des bacs généraux, le bac S, est plus noble entre guillemets que les autres et n'attire pas seulement des scientifiques ayant la vocation, mais également des littéraires qui n'ont pas de vocation scientifique, mais à qui on a dit qu'il fallait absolument avoir le bac S parce que c'est le seul bac qui compte. Résultat de l'affaire, la composition sociale des jeunes en bac S est assez différente et plus privilégié, disons, que la composition sociale des jeunes qui sont en bac littéraire, et le bac littéraire est en train de plonger. Et je ne peux pas, moi qui suis littéraire d'origine, accepter de gaieté de cœur qu'un baccalauréat littéraire soit en train de s'effondrer dans notre pays. Je crois qu'il y a à tenir compte de l'existence de ces 5 matières de base dont je parlais, qui font un peu la culture minimale de l'honnête homme et du bon citoyen du 21e siècle, et puis autour, tenir compte des disciplines complémentaires dont ces lycéens auront besoin pour réussir dans l'enseignement supérieur, et c'est au supérieur justement à nous dire, à côté de ces matières de base, quelles sont les autres connaissances qui sont nécessaires pour réussir dans telle ou telle filière du supérieur. Alors je pense que le ministère de l'Éducation y réfléchit, je ne suis pas son porte-parole et je ne sais pas tout à fait ce qu'il a dans les cartons actuellement, mais nous avons ce problème donc du bac général et de l'inégalité, en quelque sorte, des bacs généraux. Vous avez ensuite le problème des bacs technologiques, dont j'ai dit que certains réussissent remarquablement et d'autres sont en difficulté, surtout les bacs technologiques à dominante tertiaire, et pour lesquels il faut réserver aussi possibilités de poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Et puis vous avez ensuite le problème très particulier des bacs pro, avec ceux qui ont choisi d'arrêter au niveau du baccalauréat et qui donc, d'une certaine manière, coûtent moins cher à la société, qui doit en tenir compte et leur dire « ben, vous avez choisi d'entrer dans la vie professionnelle à 17-18 ans avec votre bac pro en poche, mais si vous le voulez, Plus tard, après avoir acquis un début d'expérience professionnelle, vous pourrez reprendre des études et ainsi vous monter encore dans l'ascenseur social. Et je crois que c'est normal. Et j'ai demandé que l'État leur garantisse un financement s'ils font une reprise d'études, puisque lors de leurs études initiales, ils ont coûté moins cher que les autres. Il nous semble qu'il y a, en quelque sorte, là, un droit de tirage qui doit leur rester ouvert. On peut en trouver l'argent soit sur les crédits de l'État, soit également sur les crédits de la formation professionnelle. La France et ses entreprises consacrent beaucoup d'argent à la formation professionnelle, mais on peut parfois s'interroger un petit peu sur l'utilisation de ces moyens. Et je sais qu'il y a eu un rapport d'un de mes collègues du Sénat, M. Carl, sur cette question. Il pose de bonnes questions lui aussi. Moi, je souhaite que l'on greffe un dispositif de reprise d'études à un moment ou à un autre pour ceux qui ont choisi, et c'est souvent utile pour eux, de sortir avec le bac, mais qui ont le droit ensuite, au long de leur vie, de dire « ben voilà, moi j'ai envie de reprendre une formation pour m'élever ».
Vous proposez en quelque sorte d'instituer, de créer un droit à formation, et c'est une des propositions très innovantes que j'ai trouvées dans ce rapport, dont je recommande la lecture à nos auditeurs. Monsieur le sénateur, quelle suite à votre rapport, à ces propositions? Pensez-vous qu'elles seront reprises par le gouvernement dans une future réforme des lycées ou du baccalauréat?
Je ne fais évidemment pas un rapport pour qu'il aille prendre la poussière sur les étagères du service de documentation du Sénat. L'objectif, c'est de le voir pris en compte, je ne veux pas dire repris mot à mot, mais pris en compte par le gouvernement. Je suis allé le présenter à M. Darcos, il m'a paru très intéressé par ce rapport. Je suis allé le présenter à Mme Pécresse, il m'a paru également l'intéresser. Et nous attendons maintenant, par exemple, la réforme du lycée pour voir si nous retrouvons dans ce que le gouvernement prépare une partie des points qui ont été soulevés dans ce rapport.
Très bien, donc c'est une affaire à suivre et avec beaucoup d'intérêt, puisque toutes les familles sont, ou presque, sont concernées. Monsieur le sénateur, je vous remercie pour cet entretien passionnant. Vous pouvez retrouver le rapport de monsieur le sénateur Jacques Legendre sur le site du Sénat, www.senat.fr, également sur le site de Canal Académie, qui a un lien avec le site du Sénat. Et monsieur le sénateur, je vous dis à bientôt.
Tout à fait, madame, à votre disposition.
Merci.